Du vivant, Père Philippe, 22 février 1984, Saint-Joseph.
Je réponds à cette question. Pourquoi regarder la question 28 sur les effets de l'amour et pas la question 25 sur l'ordre des passions? Eh bien, parce qu'on ne peut pas tout voir dans cet endroit. J'ai voulu simplement amorcer le problème des passions par la passion amour, parce que c'est la première. Oui. Et je crois avoir suffisamment montré, j'ai fait très rapidement, l'ordre des passions en montrant comment saint Thomas divisait les diverses passions par le point de vue de l'objet. Alors, c'est assez simple la question de l'ordre. Tandis qu'il y a dans la question 25 que nous avons essayé de voir, quelque chose qui est très typique de saint Thomas. C'est qu'il a voulu étudier les passions pour étudier l'amour, qui est la chose essentielle au point de vue théologique, l'agapé. Alors on voit très bien que pour lui, il y a deux analogués sur lesquels, en théologien, il va constamment jouer, le point de vue de l'amour-passion et le point de vue philia, l'amitié, l'amour d'amitié. Et au fond, il y aura les deux qui reviendront constamment. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la philia, l'amour d'amitié, et de regarder le point de vue amour, passion. Et ceci, c'est très propre à saint Thomas. C'est ce qui me semble intéressant à ce point de vue-là. Donc, si nous essayons d'entrer profondément dans ce qu'il y a d'original dans la pensée de saint Thomas, c'est d'essayer justement de comprendre ces deux analogués. L'un qui lui vient d'Aristote et l'autre qu'il a lui-même essayé de préciser. Il est bien évident que quand vous regardez attentivement la question 25, la passion amour, cette passion amour implique, sous-jacent, toute la question de la philia. Les deux se tiennent, on le voit très bien, je vous l'ai fait remarquer de temps en temps, que le point de vue de la philia, de l'amour d'amitié est présent. Donc c'est l'amour passionnel qui l'étudie, mais en même temps, il y a ce souci constant de regarder le point de vue philia. De sorte que, si j'ai pris la question 25, vous comprenez bien, c'est uniquement pour vous permettre d'amorcer cette question des passions. C'est une manière pour nous d'entrer dans la somme théologique de saint Thomas, peut-être la plus proche de notre sensibilité et de notre intelligence. Étudiez bien le traité des passions dans saint Thomas, c'est une chose relativement facile et c'est une chose importante parce que c'est tout un aspect très particulier de saint Thomas. Bon, c'est uniquement ça. Hein. Alors on pose la question, qu'est-ce que c'est que l'extase? Alors il faut comprendre l'extase telle qu'on en parle saint Thomas dans les passions, c'est la sortie de soi au niveau affectif. C'est une extase intentionnelle, hein, comprenez bien, ça ne se voit pas. N'est-ce pas? C'est pas une physionomie extatique, non, c'est pas ça. C'est l'extase intentionnelle, c'est-à-dire c'est l'opération vitale d'amour qui permet cette sortie de soi vers un bien qui nous attire. Et ce bien qui nous attire nous permet justement de sortir de nous-mêmes et d'aller plus loin. C'est le propre de l'extase. Sortie de soi pour atteindre un bien qui nous attire. Vous voyez, au fond, c'est l'aspect subjectif de l'aspect objectif du bien qui attire. Parce que le bien attire, il nous fait sortir de nous. C'est pour ça que ce qui est premier dans l'analyse philosophique, c'est de comprendre que le bien attire. Le bien exerce une attraction. Le beau exerce une séduction. Il faut toujours mettre en parallèle les deux. Et la séduction qu'exerce le beau, c'est justement par rapport beaucoup plus à l'intelligence. On est séduit par le beau, et cette séduction du beau relève de la connaissance. Tandis qu'au contraire, on est attiré par le bien attire, et nous fait sortir de nous. Alors là, on touche deux aspects très importants à bien saisir. La connaissance reste dans l'immanence, tandis que l'amour nous fait dépasser l'immanence pour nous orienter vers le bien qui nous attire. Et ce bien nous transcende. Et c'est en ce sens-là qu'il y a extase. Alors c'est extase au niveau intentionnel. Extase au niveau intentionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sortons de notre conditionnement et nous touchons notre fin. C'est ça l'extase. C'est de s'ouvrir à la fin, à notre bien qui nous finalise. Il n'y a pas d'extase en dehors du bien qui nous finalise. Notre conditionnement nous met et nous laisse dans l'immanence. Tandis qu'au contraire, le bien, dans la mesure où il transcende, alors nous fait sortir de nous. Et au fond, c'est la sortie de soi, l'extase. C'est sortir de soi pour aller vers quelque chose qui nous dépasse. Donc on peut dire qu'intentionnellement, c'est l'ouverture profonde du cœur, l'ouverture profonde de la volonté vers un bien qui nous dépasse et qui, par le fait même qu'il nous dépasse, nous fait sortir de nous-mêmes pour aller plus loin. Alors, quelle opération vitale est-ce l'extase? C'est l'amour. L'amour est extatique. C'est un effet de l'amour, c'est une conséquence de l'amour. Donc, ce n'est pas autre chose que l'amour passionnel. Mais tout amour est extatique. Même l'amour passionnel. Et c'est pour ça que saint Thomas l'étudie au niveau passion, pour bien montrer que si la passion amour est extatique, a fortiori l'amour spirituel. Puisqu'au fond, l'amour passionnel relevant du concupiscible, le concupiscible a un mouvement inverse que l'extase. Il ramène tout à nous. Et c'est le propre du concupiscible de faire qu'il ramène tout à nous. On accapare par le concupiscible. Eh bien, l'amour a ceci de particulier qu'il nous empêche d'accaparer, normalement. C'est pour ça que c'est contraire à l'amour d'accaparer. Tout accaparement, tout égocentrisme, c'est ce que Lavelle dit, c'est le ver dans le fruit. Eh bien, c'est le ver dans l'amour. Tout accaparement tue l'amour. C'est le mode du concupiscible qui n'est pas dans le sens de l'amour. C'est juste l'inverse. Puisque l'amour en lui-même est extatique. On est porté vers l'autre. L'amour ne fait pas qu'on ramène l'autre à nous. Ramener l'autre à nous, c'est contraire à l'amour. Ce n'est pas aimer, ça. C'est au fond voir dominer. Et en réalité, ce n'est pas du tout. Et les gens qui disent « Je t'aime tellement, je veux que tu sois tout le temps avec moi. » C'est faux. Ça prouve qu'ils n'aiment pas. Ça prouve que c'est un accaparement. Et alors, en réalité, ce n'est pas du tout une capacité d'aimer. C'est une volonté de domination. Et c'est l'irascible. C'est très glorieux. Mais alors, on ne le dit pas. On dit « je t'aime tellement que je veux que tu sois tout le temps avec moi. » Oui, le boa qui va avaler son petit lapin, alors il l'aime tellement qu'il l'avale. Hein. Et il le tue en l'avalant. Il ne peut pas faire autrement. Il le tue en l'avalant. Alors, en réalité, on n'aime pas. Alors, on n'est pas lucide. Si on était plus lucide, on comprendrait que c'est l'irascible et que c'est une volonté de domination. Et je crois qu'on lutterait beaucoup plus contre. Parce qu'on verrait que ce mode du concupiscible, ce mode d'accaparement n'est pas le véritable amour. Et si on veut aimer, si on veut aimer parce qu'on a compris que l'amour c'était ce qu'il y avait de plus grand en nous, si on veut aimer, on lutterait contre cela. Et on ferait tout pour que justement on aime vraiment l'autre pour lui-même. Et c'est ça qui nous permet d'être en extase. Parce qu'on l'aime pour lui-même. Si on l'accapare, il n'y a aucune extase, c'est juste l'inverse. On le tue. C'est très très important ça, je crois. Alors vous voyez, c'est ces interférences entre l'irascible et le concupiscible, c'est très très simple quand on les étudie en soi, très simple, très très bien. Mais dans le vécu, c'est extrêmement complexe dans le vécu. Dans le vécu, vous appelez amour parce que ça fait bien, mais en réalité, c'est pas ça du tout. Et tout le monde, tous les autres en sont tout à fait conscients. Il n'y a que celui qui dit « je t'aime » et qui accapare qu'il n'en est pas conscient. Parce que la passion n'est pas consciente. Alors, on colore l'irascible d'une volonté de domination d'un amour. Si on était plus lucide, on dirait « mais oui, c'est vrai. J'ai un besoin irrésistible de dominer. Et je dis que j'aime. En réalité, je n'aime pas. C'est pour moi. C'est pour moi, cet égocentrisme n'est pas l'amour. » Ça, c'est très très important à comprendre, parce que je crois que c'est ce qui nous permet de devenir plus lucide. Voyez, l'amour passion est tout entier ordonné à l'amour spirituel. Et il doit être la base de l'amour spirituel. Pourquoi si souvent l'amour passionnel ne devient pas spirituel? Ça existe, hein. Et je crois que c'est à l'origine de tous les divorces. Je crois. Et de tous les drames. Parce que l'amour en lui-même n'est pas dramatique. Il est dramatique quand l'irascible se met dedans. Et le signe que l'amour n'est pas pur et que c'est pas vraiment uniquement l'amour, c'est quand l'irascible se fourre dedans. Alors l'irascible est tragique. Il est dramatique. Et on aime le drame. On aime. Et on prétend que c'est de l'amour. Pas du tout, c'est votre irascible qui veut dominer et qui veut se manifester. Alors, soyez un peu plus lucide. Et quand on est un peu lucide, alors on comprend, c'est vrai, mon irascible, il est fameux. Et c'est vrai, notre irascible, il est fameux, vous savez, chacun d'entre nous. Il faut le découvrir, il faut arriver à le découvrir, cet irascible, parce qu'il est quelquefois très très bien caché par le concupiscible en disant « mais moi c'est j'aime passionnément, j'ai des capacités extraordinaires d'aimer ». Attention, en réalité, c'est votre irascible qui veut dominer. On est beaucoup plus marqué par Nietzsche qu'on le pense. Hein. Et notre civilisation est beaucoup plus marquée par Nietzsche qu'on le pense. Et alors là, c'est le point de vue de la volonté de domination. Ce n'est pas du tout l'amour. Alors je crois qu'il faut comprendre que lorsque justement un amour ne se spiritualise pas, c'est à cause de l'irascible. Alors l'irascible s'empare de cet amour passionnel pour vouloir dominer, pour accaparer. Alors on accapare et on ramène à soi. Et en ramenant à soi, alors à la place d'aimer vraiment et d'être disposé à un amour spirituel, on domine. Et dès qu'on domine, dès qu'il y a domination, il n'y a plus d'amour. L'ennemi numéro un de l'amour, c'est la domination. L'amour est de l'ordre affectif et de l'ordre du don. La domination n'est pas de l'ordre du don. La domination, c'est très bien. Je veux m'étendre mon pouvoir. Hein. Et on voit très bien que c'est l'étendue de son pouvoir qu'on cherche avant tout. C'est très subtil, ces choses-là. Vous savez, au fond, les passions, c'est pas lucide. Hein. Ça met beaucoup de temps avant que nous devoir une lucidité dans ces passions. Et le vieil Aristote dirait, c'est pas étonnant, parce que quand on est jeune, on est toujours passionné. Donc les passions, boum, et dans la mesure où ça boue, c'est pas lucide. Hein. C'est pas lucide du tout. Alors il faut que les passions arrivent à tomber un tout petit peu pour qu'on soit un peu lucide, hein, pour découvrir ce qui est la passion amour et au fond cette espèce d'irascible qui est en nous qui ne décolère jamais. Comment se fait-il qu'on passe si facilement de l'amour à la colère? Est-ce que ça ne prouve pas que justement à l'intérieur de cette passion amour qu'on dit amour, il y a un irascible prodigieux? Alors il suffit d'un rien pour que ça passe à la colère, ce qui montre bien que l'irascible est là présent. Et tant qu'on n'a pas dépisté l'irascible, vous voyez, impossible de purifier la passion amour. Parce que c'est trop replié sur nous et c'est trop dans la domination. Il faut arriver, hein, cette auto-éducation de soi-même. Hein, quand on arrive à 18 ans, et je prends ça exprès comme âge, hein, je dirais même 16 ans. Je ne crois pas qu'un être à 16 ans se laisse encore éduquer aujourd'hui. Je ne crois pas. Donc quand on arrive à 18 ans, je m'exprime un tout petit peu plus, hein, quand on arrive à 18 ans, il faut pouvoir soi-même s'éduquer, c'est-à-dire prendre en main sa propre vie. Prendre en main ses propres forces vitales. Et nos forces vitales, ce sont nos passions. Ce sont nos forces vitales. Nous éduquons nos passions. C'est la matière propre à l'éducation, ça. Hein. C'est pour ça que j'en ai très passionné. Tant mieux. Il y a une matière abondante à l'éducation, n'est-ce pas ? Et la taille du père peut être un peu plus violente. Alors on pleure davantage, c'est évident, mais après tout, tant mieux, ça permet au terrain d'être fertilisé, n'est-ce pas ? Alors ça fait un... et c'est vrai, c'est quelque chose qui nous aide d'aller plus loin. Mais il faut, je crois que c'est très très important, de prendre en main sa propre éducation. On ne peut pas, à 18 ans, se laisser éduquer par un autre. C'est impossible, vous voyez ? Parce qu'autrement, d'avoir sa petite nounou toujours présente, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie, alors c'est impossible. C'est du luxe aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc ça ne va plus. C'est du luxe. C'était comme dans le temps passé, il y avait les carmélites entrées avec leur servante. Hein, vous voyez, c'était bien. On avait quelqu'un qui vous servait tout le temps, comme ça. Ça existait dans un certain style de vie, n'est-ce pas ? Alors on voit très très bien, c'était les sœurs converses, c'était celles qui étaient là. Alors on avait à côté quelqu'un qui disait, aujourd'hui c'est impossible, ça ne peut plus se faire. Aujourd'hui on doit avoir suffisamment de force pour prendre en main sa vie. C'est son auto-éducation. Eh bien l'auto-éducation commence par une lucidité sur ses passions. Appeler un chat, avec des yeux verts, et des yeux bleus et des yeux bleus. N'est-ce pas ? Parce que ça n'a réagi pas de la même façon. Alors il faut avoir cette lucidité, ces passions. Et c'est bon de temps en temps de comprendre qu'on a tel état émotif qu'on a eu, d'où ça provient. Comment ça se fait, ça ? Pourquoi leur sort est-il cassé ? Et qu'on est replié sur soi ? Et qu'on est une loque ? Pourquoi ? Ah. Vous voyez l'auto-éducation ? Il faut arriver à ça et puis dire, bon, une autre fois, je saurai. S'il n'y a pas ça, je crois que c'est impossible. Parce qu'à partir de 16 ans, on n'éduque plus ses passions. On ne laisse plus quelqu'un d'autre éduquer ses passions. C'est impossible. Dans le monde moderne. Or, souvent, on n'a pas été très bien éduqué. Bon, alors, il faut que l'auto-éducation soit très sérieuse. Oui, alors c'est ça que le noviciat, c'est une auto-éducation sous la conduite de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Alors c'est ça, arriver à avoir la lucidité sur la passion amour, la lucidité sur la passion colère, la lucidité sur la passion haine. Je prends les grandes lignes de force. Hein. Il faut avoir cette lucidité. Comprendre que quand on dit qu'on aime, peut-être qu'on veut accaparer. Alors avoir le courage de dire, eh bien non, c'est pas vraiment l'amour. Et donc c'est un accaparement, c'est donc mon irascible. Alors mon irascible, on doit l'aimer, c'est très bien d'aimer son irascible, on doit l'aimer. Mais attention, hein, faut pas le laisser dominer sur les autres. Parce qu'alors si on le laisse dominer sur les autres, ça devient invivable. Au sens très très fort. Et ceux qu'on aime le plus, on les étouffe. Alors c'est pas les aimer. Aimer quelqu'un, c'est lui permettre d'aller plus loin et d'entrer dans une extase plus grande à l'égard de son bien. Bon, c'est important de comprendre ça. Y a-t-il une différence entre extase et contemplation ? Eh bien, la contemplation relève de l'intelligence. L'extase relève de l'amour. Il est évident que si vous prenez l'extase au niveau spirituel, toute contemplation implique une extase. Mais toute extase n'implique pas une contemplation. Toute contemplation implique une extase, parce que toute contemplation est à base d'amour. Mais c'est à l'intérieur de cet amour spirituel qu'il y a ce regard. Et la contemplation, c'est ce regard à l'intérieur de l'amour et dans cet amour. Donc la contemplation est plus lucide que l'extase. Elle a la lucidité de l'intelligence et du regard. C'est le propre de la contemplation, même de la contemplation mystique, hein. Bien qu'elle soit dans la foi, et donc elle est autre chose que l'extase. Elle relève du don de sagesse. Et le don de sagesse, c'est l'intelligence. C'est dans l'amour, mais c'est un regard d'intelligence. Dans toute contemplation, il y a un regard de l'intelligence. À l'intérieur de l'extase, on est porté vers celui qu'on contemple et qu'on aime. Et il y a ce regard sur lui, ce regard contemplatif d'amour. Vous voyez, il faut bien voir que l'extase commence à la passion, se termine dans la contemplation. Vous pourriez regarder l'extase passion, c'est ce dont nous avons parlé. L'extase passion, l'extase contemplation. Ici, au niveau purement humain. L'extase contemplation, c'est une extase donc au niveau affectivité spirituelle. Ici, c'est une affectivité sensible. L'affectivité spirituelle implique toujours une certaine affectivité sensible, mais elle est dominée par le point de vue spirituel, par le point de vue volontaire. Alors vous avez donc cette extase volontaire de l'affectivité spirituelle en laquelle va pouvoir naître un regard contemplatif. Parce que la contemplation, c'est un regard. Tandis qu'ici, il n'y a pas de contemplation. Dans l'extase passionnelle, il n'y a pas de contemplation. L'extase passionnelle, c'est tout simplement, on est attiré vers, on est une espèce d'attraction sensible. Vous pourriez mettre entre deux une extase selon l'affectivité imaginative. L'affectivité imaginative. Ce qui est une affectivité imaginative, romantique si vous aimez mieux, n'est-ce pas ? Il y a une espèce d'affectivité qui se développe avec le point de vue imaginaire. Et donc il y a aussi là une extase dans l'ordre imaginatif. Vous savez, quand vous êtes complètement distrait, alors je mettrai extase distraction ici. Vous avez extase et contemplation, extase et distraction. Alors ça, c'est tout à fait l'affectivité imaginative. Vous êtes complètement en dehors. Vous pensez à, je ne sais pas, quoi, ce qui vous intéresse, ce que vous avez pu voir il y a 3 jours, 4 jours, puis vous écoutez le cours. Oh, comme ça passe vite. Ce cours, c'est extraordinaire. Et la distraction. Alors ça, c'est l'extase distraction. On doit lutter contre l'extase distraction. Et l'extase passion, je dirais, c'est l'extase passion, c'est tout. L'extase passion, c'est une extase. Je me porte vers. Alors très facilement, cette extase passion, peut se lier, évidemment, c'est pas la distraction, c'est très différent, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'extase imaginative. Vous voyez, vous avez 3 niveaux d'extase. Alors, ajoutez un 4e au point de vue surnaturel, c'est sûr. Il y a l'extase mystique, qui est encore autre chose. L'extase mystique, qui est à partir de la charité, et dans la charité, et avec le don de sagesse, qui donne ce regard. Là, vous avez encore extase et contemplation. Voilà les différents points. Nous allons donc continuer le cours, si vous voulez. Nous sommes arrêtés assez longtemps à la passion. Je vais m'arrêter à la passion. Il y a encore des quantités de choses à dire. Parce qu'on pourrait étudier chacune des passions en étudiant du reste dans saint Thomas, chacune des passions. Ça, je vous demande, dans la mesure où vous avez le temps, de le faire. Ce n'est pas du temps perdu. Et c'est une très bonne manière de s'analyser soi-même et de s'éduquer soi-même. Il y a toujours, dans toute éducation, une base de connaissance. connaître les passions qui sont en nous, essayer de les repérer, essayer de les rendre plus humaines, c'est-à-dire de les orienter vers la prudence, c'est ça, cette auto-éducation. Notre auto-éducation se fait à partir de notre prudence et de la réflexion que nous prenons sur nos diverses passions. Alors, je vais maintenant, après avoir vu ce que c'est que la vie végétative, la vie sensible, et nous avons vu la vie sensible, les connaissances et le côté affectif, nous allons maintenant entrer dans le troisième degré de vie, la vie intellectuelle. La vie intellectuelle, le mot est très mauvais. On ne peut pas dire non plus la vie spirituelle, parce que tout le monde, dès qu'on parle de la vie spirituelle, on pense à la vie spirituelle qui était tout simplement la vie chrétienne. C'est très difficile, c'est la vie du nous, c'est la vie de l'esprit. Alors, c'est peut-être ça qui irait le mieux, c'est la vie de l'esprit. C'est découvrir qu'il y a en nous, dans l'analyse que nous faisons, un troisième degré de vie qui n'est ni végétatif, ni sensible, et qui est différent. Alors c'est ce troisième degré de vie. Qu'est-ce qui caractérise ce troisième degré de vie? C'est que nous sommes en présence d'opérations vitales qui ont une espèce de liberté intérieure par rapport au milieu dans lequel on se trouve. L'esprit est libre du milieu dans lequel il se trouve, en tant qu'esprit. C'est pour ça qu'on parle de nous séparer. Il est libre du milieu. Au point de vue de la vie végétative, je suis très dépendant des carottes, des navets et du beefsteak. Donc je suis dépendant du milieu dans lequel je me trouve. Milieu aquatique, milieu désertique, milieu souterrain, je suis dépendant de ça, c'est bien évident. Point de vue de ma vie végétative, je suis dépendant des légumes, je suis dépendant de ma nourriture, de l'aliment. Donc ma vie végétative ne peut se développer qu'en dépendance d'un milieu de vie immédiate. Au niveau de ma vie animale, ma vie sensible, je suis encore dépendant des réalités immédiates, par mes sens, mais je peux déjà m'élever beaucoup plus, puisque il suffit de voir un petit coin de ciel. Voir un petit coin de ciel, c'est suffisant, c'est suffisamment reposant pour mon regard. Et au point de vue affectif, je dépends bien du milieu dans lequel je suis, mais je porte au-dedans de moi-même ce milieu affectif. Je sais très bien que l'amour, l'union affective demande l'union affective, et donc à ce moment-là, je redépends du milieu dans lequel je suis. Quand il s'agit de du troisième degré de vie, c'est-à-dire la vie de l'esprit, il y a en moi une indépendance beaucoup plus grande, une autonomie beaucoup plus grande. La vie de l'esprit, mais le séverait, c'est ça qu'il faut toujours regarder. Le sévère est beaucoup plus grand. Mais c'est... quand vous regardez les trois degrés du sévère, le sévère de la vie végétative, le sévère de la vie sensible et le sévère de la vie de l'esprit, le sévère se voir dans la vie végétative, il est assez restreint. Je veux bien quand il y a des plantes qui peuvent avoir une possibilité de s'implanter différemment, dans différents milieux, on peut ça, parce que le sémovéré de l'arbre est assez limité. Quand on l'ouragan, pour la puisse se déplacer, le sémovéré de ma vie végétative est assez limité. Je suis limité tant au milieu dans lequel je me trouve. Le sémovéré de ma vie sensible est aussi assez limité, tandis que le sémovéré de ma vie de l'esprit est infini. Pas de limite. Pas de limite. Je ne peux pas mettre de limite dans ma vie de l'esprit. Il y a quelque chose, il y a un foulecan qui va très vite. Pas aller très vite, c'est l'infini. Mais il y en a déjà un, vous voyez, avec les étoiles. Hein. C'est la vie, l'œil, le regard, au point de vue sensible, a quelque chose, qui, l'horizon, tu vois, quelque chose qui va très loin, l'horizon, qui montre bien quelque chose qui touche l'infini. Mais l'infini n'est vraiment touché que dans la vie de l'esprit. Le vivant de vie de l'esprit a quelque chose d'infini. C'est-à-dire, quand je dis infini, pas de limite. Vous ne pouvez pas limiter votre vie de l'esprit. Tandis que vous limitez assez bien votre vie végétative. Quand on vous donne 3 bons repas par jour, votre vie végétative est saturée. Et c'est le gosse qui dit, genre, ah, si je peux en manger plus, j'en mangerai bien, mais je ne peux pas. Alors vous voyez, c'est donc il est limité. Il est limité. C'est parce qu'il est esprit qui réfléchit, qui voudrait bien en prendre plus. Un animal, il a mangé. Le lion, quand il a mangé son bon beefsteak, tous les autres animaux peuvent venir, il devient doux, devient bon. Parce qu'il a bien mangé. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils sont des lions. Alors ça, c'est les limites de la vie végétative. La vie végétative a des limites. La vie sensible a aussi des limites, elle n'est pas infinie. Mais elle a un horizon quasi illimité. Quasi illimité, les étoiles. C'est vrai, c'est la limite de mon monde sensible. C'est quasi illimité. C'est une espèce d'image de l'infini. C'est une image de l'infini, mais c'est quand même quasi. C'est quand même limité. Parce que mon univers est illimité. Donc ma vie sensible, elle a. J'allais presque dire des prétentions d'infini, mais elle n'est pas infinie. Elle a des prétentions d'infini parce que je ne vois pas la limite. Tandis que dans la vie végétative, vous voyez la limite. Et dans la vie intellectuelle, dans la vie de l'esprit, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est infini. Donc, elle est libre du milieu. Si elle est infinie, si le simodéré touche quelque chose d'infini, il y a une liberté par rapport au milieu. La vie de l'esprit, quand elle se développe parfaitement, est complètement libre du milieu. Et donc, celui qui est encore dépendant du milieu, ça prouve que la vie sensible est encore trop forte. Ça, c'est très humiliant pour nous, mais on est bien obligé de le reconnaître. Hein. Ou que la vie végétative est encore trop forte. On est lié à telle ou telle chose, alors on ne peut pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas se dépayser à cause de ça. Parce qu'ils étaient habitués à prendre les nouilles de telle manière, on les donne d'une autre manière, ça ne va plus. Et ainsi de suite. Alors, tandis que l'esprit, lui, il n'est jamais dépaysé. Parce que l'esprit crée son milieu. C'est le propre du vivant, c'est le grand vivant. Vous voyez, il y a un renversement de valeur avec la vie de l'esprit. C'est ça, je crois, qu'il faut saisir. Il y a un renversement de la valeur. Les 2 degrés de vie inférieurs à la vie de l'esprit sont dépendants du milieu. Et la vie de l'esprit crée un milieu. Je prends en lui-même, selon le développement de la vie de l'esprit, selon le développement et le conditionnement de la vie de l'esprit, je suis dépendant d'un milieu. Mais ma vie de l'esprit, dans sa finalité propre, en tant qu'elle est orientée vers la fin, est au-delà du milieu. Domine. C'est très beau ça, c'est un des aspects importants pour saisir ce que c'est que l'esprit. Oui. Et c'est là on voit du reste qu'on n'est pas des êtres suffisamment spirituels. Parce que quand vous dépendez du milieu, toi, quand vous dépendez du milieu électoral, c'est pas très spirituel. Hein, c'est évident. Ça prouve qu'on est un être qui à fond est très très lié à tout l'aspect sensible, à l'aspect communautaire. Et ça, c'est sensible. La vie commune n'est pas uniquement spirituelle. Alors, quand on est trop dépendant de la vie commune, ou trop en opposition de la vie sensible, ça prouve qu'on est encore trop insensible. Si on était un esprit, on est au-dessus. On est au-dessus. On n'est pas touché. On est conditionné. qu'est-ce que c'est que le conditionnement ? On l'accepte. Prenez. Tandis que l'esprit a sa finalité au-dessus. L'esprit a seul, et alors c'est ça qui est très très beau avec la vie de l'esprit, c'est que vraiment la vie de l'esprit découvre une fin propre. La vie de l'esprit demande d'être finalisée. Et demande d'être finalisée, justement, de ce fait que elle demande d'être finalisée vis-à-vis d'un bien qui transcende le milieu. Qui n'est plus le milieu, qui transcende le milieu, qui est le bien absolu, comme on le voit, qui est un bien absolu, qui est le bien absolu. L'esprit est capable, parce que l'esprit est ouvert et infini, donc l'esprit, dans sa finalité propre, va découvrir le bien absolu. Ça, c'est pour vous faire comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier à ce troisième degré de vie, qui est la vie de l'esprit, qui est propre à l'homme. Parce que la vie animale, la vie sensible et la vie végétative sont propres aux autres vivants. Je les vis différemment, mes passions, je les vis autrement que le chien. Ma vie végétative, je la vis autrement que l'animal et que les arbres, mais c'est substantiellement la même vie. Tandis que la vie de l'esprit est propre à l'homme. Et sa vie de l'esprit va pouvoir, en raison même de sa perfection, et ça nous verrons au terme, assumer la vie sensible et la vie végétative. Mais ça explique aussi, vous voyez, pas mal de problèmes, hein, parce que c'est une cohabitation. L'homme, le vivant, qui est l'homme, implique ces trois degrés de vie. Il y a une cohabitation qui n'est pas commode. Vie végétative, j'ai mal à l'estomac ce matin. Ah, ça, c'est la vie végétative. La vie sensible, ah oui, j'ai des antipathies et des sympathies. Et je ne peux pas tout le temps être avec mes sympathies. De temps en temps, je dois cohabiter avec des antipathies. Et j'ai justement mal à l'estomac ce jour-là. Et il y a des interférences entre les deux. Alors je me tâte le pouls pour savoir si j'ai mal à l'estomac à cause de l'antipathie ou si c'est l'antipathie qui me donne mal à l'estomac. On sait très bien, c'est tous les problèmes qui sont très très actuels. C'est des problèmes très actuels. Les interférences entre le point de vue vie végétative et puis vie animale, c'est-à-dire vie passionnelle. S'il y a des interférences constantes, hein. Puis il y a une nouvelle interférence. La vie de l'esprit. Normalement, la vie de l'esprit n'a pas du tout les mêmes genres d'interférences. Il y a des rivalités entre les deux. Alors ça, c'est très curieux. La vie de l'esprit n'est pas rivale. Tandis que la vie végétative et la vie animale sont rivales entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de milieu. Or, le milieu de la vie végétative et le milieu de la vie animale n'est pas toujours le même. Sur votre milieu de vie végétative et le milieu de votre vie animale, de votre vie sensible, c'est pas toujours le même. Mais il y a besoin d'un milieu, des deux côtés, il faut un milieu pour les deux. Tandis que quand il s'agit de la vie de l'esprit, on est au-delà du milieu. Donc, il n'y a pas de rivalité possible. L'esprit ne peut pas être rival dans ces deux vies. Et c'est pour ça que l'esprit les enveloppe et les compénètre. Je vais vivre humainement ma vie végétative. Je vais vivre humainement ma vie passionnelle. Mais c'est un problème éthique, un problème moral, qui nous disent qu'à partir du degré de vie spirituelle, de la vie de l'esprit. Mais tandis que la vie végétative et la vie passionnelle, alors il y a une rivalité constante entre les deux. Et ça, c'est vrai, on sent très bien. Et c'est ce qui explique les interférences. Tandis que vous avez beaucoup moins d'interférences, ça peut exister. À cause du devenir, à cause de mon devenir de ma vie de l'esprit, alors c'est par le devenir de ma vie de l'esprit, à cause du devenir de ma vie de l'esprit, il peut y avoir des interférences. Parce que mon devenir intellectuel dépend de ma vie sensible. Mon devenir volontaire dépend de mes passions. Alors à ce moment-là, à cause du devenir, il peut y avoir des interférences. Alors je suis tout le temps dans un devenir, donc je suis sur la terre. Donc les interférences existent. Mais elles n'existent pas du tout du côté de la finalité. Donc je peux les dépasser. Tandis que les interférences entre la vie végétative et la vie passionnelle sont des interférences essentielles, pas seulement au niveau du devenir, essentielles. Parce que toutes les deux sont dans le devenir, essentiellement dans le devenir. Donc toutes les deux vont impliquer constamment des réactions. Bon, ça c'est très intéressant à regarder, c'est très intéressant à essayer de comprendre. On essaiera au terme peut-être d'y revenir, parce que c'est intéressant à voir ces choses-là. Alors, voyons tout de suite la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est premièrement la vie du nous. Le nous, c'est-à-dire l'intelligence. C'est la vie du nous, c'est la vie de l'intelligence. En premier lieu. C'est ça qu'on doit essayer de regarder en premier lieu. Comment apparaît pour moi, je suis dans la philosophie du vivant, je ne suis pas dans la perspective d'une critique. Faites attention. La vie de l'esprit, la vie du nous, la vie de l'intelligence peut s'étudier sous des points de vue très différents les uns des autres. Ça peut s'étudier sous le point de vue de la vie, philosophie du vivant, ce que nous faisons maintenant, sous le point de vue métaphysique et sous le point de vue critique. Donc il y a trois études particulières que nous pouvons faire du nous au niveau philosophie du vivant, au niveau philosophie première et au niveau critique. Trois aspects différents qui viennent se compléter, le reste, qui ne se contredisent pas et qui se complètent et qui sont à des points de vue très différents les uns des autres. Ici, je me place donc du côté de l'opération vitale. L'opération vitale la plus parfaite, la plus noble dont j'ai conscience, c'est l'opération intellectuelle. Penser. Je ne dis pas connaître, mais penser. Alors, intelligere, cogitare. Intelligere, occam, Descartes, cogitare. Et pour Aristote, hypolepsis. 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 C'est l'opération première, l'hypolepsis. C'est beau du reste. Hein. L'opération hypolepsis, c'est très difficile à traduire. C'est cette opération de l'intelligence dans son état de réceptivité. Elle reçoit. La vie de l'intelligence, c'est d'abord recevoir. C'est très curieux. C'est d'abord recevoir. C'est une ouverture vis-à-vis de l'autre. On est intelligent quand on est ouvert vis-à-vis de l'autre. Hypolepsis. C'est une manière d'être en contact avec l'autre. Alors, on va essayer de comprendre au point de vue proprement, au point de vue proprement philosophie du vivant, comment analyser la vie de l'intelligence. Et je dis bien, je suis à un niveau de philosophie du vivant. Comment analyser cette vie de l'intelligence? Première chose à faire, discerner ce qu'il y a de particulier et de nouveau entre l'intelligence et l'imagination. C'est la première chose qu'Aristote fait, et je crois qu'on doit la faire, ça. Aristote montre que des quantités de philosophes n'ont pas distingué intelligence et intelligence et imagination. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de discerner le domaine de l'imagination du domaine de l'intelligence. C'est pas si facile que ça. Et c'est très intéressant à faire. Que des quantités de philosophes pensant être au niveau de l'intelligence restent au niveau de l'imagination. Alors il faut essayer de comprendre la différence entre les deux. Puis ensuite, voir comment se développe la vie de l'intelligence. le se movere, la vie d'intelligence. Vous voyez, nous sommes dans une perspective de philosophie du vivant. Hein.